dans la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et donc, ce prix Nobel de la paix, c'est une reconnaissance pour son travail auprès des femmes et de toute la population. Se trouve son hôpital à Bukavu qui ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie. Des réactions recueillies par notre correspondant Ernest Mouero depuis Bukavu.
Dr Mukwege a mérité ce prix. Nous tous, nous sommes conscients du travail qu'il fait. J'ai dit qu'il est l'un de nous, mais nous le considérons comme le meilleur de nous. Et ça nous fait nous la joie. Nous croyons que c'est vraiment un espoir pour les Congolais. Nous sommes de cœur avec lui dans les combats qu'il mène. Et nous croyons qu'il va faire encore davantage, surtout dans une approche qui soit synergique, pour que non seulement le Congo, mais que toute l'Afrique puisse se retrouver au travers de lui dans ce prix.
Je suis content de voir que le docteur Mukwege, le premier Congolais, a ramené ce prix Nobel en RDC. Et la fierté est plus grande parce que le prix vient à Bukavu, précisément dans le quartier reculé de Panzi. C'est étonnant que Dieu continue à faire des merveilles.
Je remercie notre docteur Mukwege parce qu'il nous a bien tenus et on a bien nous protégé ici sur l'hôpital. Et vraiment, je remercie vraiment que Dieu elle nous donne une vie qui doit être bien.
C'est un sentiment de joie, de satisfaction. C'est vrai que nous attendions ce prix depuis très longtemps. Le docteur Mukwege fait un travail exceptionnel pour reconstruire des vies qui ont été brisées, des familles qui ont été brisées, redonner l'espoir à ces femmes qui ont tout perdu, leur dignité, leur féminité. Et nous pensons que c'est un travail énorme qui devrait être reconnu un jour. Et aujourd'hui, c'est pour nous une grande joie de voir que ce travail est reconnu par le monde entier.
Voilà pour le débat. Nous avons trois invités pour nous accompagner en direct de Paris. Céline Bardet, juriste internationale, auteure, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapon of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. En direct de Bukavu, en RDC, Lubula Igomokelo, l'assistante du docteur Mukwege à l'hôpital de Panzi. Et sur notre plateau, Nathalie Barge, présentatrice de l'émission Le Monde au Féminin sur la VO Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, Lubula, à quoi doit servir à présent ce prix?
Bonsoir, Madame Aïssa. Bon, ce prix devrait servir en fait à interpeller le monde entier. Bon, c'est la plus haute reconnaissance actuellement sur la planète, je crois, le prix Nobel. Et il devrait nous interpeller à considérer vraiment le viol comme une arme de destruction massive. C'est-à-dire que le viol a atteint le niveau de l'arme nucléaire ou de toute autre arme chimique et nous avons vu comment les pays se sont engagés à éradiquer ces armes. Je crois que le viol est devenu cette arme aussi. Donc le prix Nobel devrait nous interpeller à attaquer cette arme de destruction massive.
Merci.
Le viol.
Merci. Céline, est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que le viol comme arme de guerre?
Alors c'est difficile de l'expliquer en deux mots, mais en fait c'est utiliser la violence sexuelle, le viol, avec un objectif précis. En fait, le viol comme arme de guerre, c'est une arme de destruction, d'humiliation, qui a pour la plupart du temps un objectif. Ce sont des viols avec extrême violence, il faut être très conscient de ça. Ce sont des viols qui sont commis avec des objets. En République démocratique du Congo, on tire dans le vagin des femmes, donc il y a un objectif très clair de d'anéantir, alors en l'occurrence en RDC, les femmes pour ce qu'elles représentent et pour des raisons souvent derrière d'enjeux économiques ou de conflits. Donc le viol de guerre, c'est ça, et ça n'est jamais isolé. Ce ne sont pas ce qu'on appelle les dommages collatéraux de la guerre, pas du tout. C'est une arme extrêmement pensée, souvent planifiée à haut niveau et qui a un effet effectivement absolument massif et terrible.
Merci Nathalie. Peut-on parler de viol comme stratégie militaire?
Oui, le viol, dans certaines guerres, il est décidé en haut lieu, comme le bombardement d'un village. Il est vraiment décidé en haut lieu. Il a toujours existé dans la guerre, mais il est devenu systématique comme outil de guerre dans les conflits contemporains. Et ce que l'on retrouve aujourd'hui, et surtout en Afrique, je dirais, c'est que Autrefois, les guerres étaient bien localisées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les guerres passent les frontières. On connaît bien entendu le cas dans l'est de la RDC, entre autres. Donc, c'est un outil de terreur, c'est une arme de terreur, mais qui, plus est, franchit les frontières et n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est dans des schémas où l'on a plus de milices, de groupes de milices ici et là, qui sont extrêmement mobiles. Et à chaque fois qu'ils se déplacent, la première chose qu'ils font, c'est de piller, de violer, entre autres, de s'accaparer en quelque sorte un village, de faire partir la population. Et ça marche très très bien, parce que quelques exemples de viols peuvent anéantir toute une région. C'est-à-dire que les gens partent, et en Syrie, par exemple, en Syrie, ça marche extraordinairement bien.
C'est-à-dire ça date pas de maintenant, ça date de très longtemps. On l'utilise dans d'autres pays, partout dans le monde. Mais l'Ouboula, cette horreur, elle est déjà connue depuis longtemps par la communauté internationale. D'ailleurs, le docteur Mukwege a témoigné maintes fois. Mais est-ce que sur le terrain, les choses, elles s'améliorent ?
Pour ce qui concerne notre région ici, personnellement, j'aurais honte de dire que les choses s'améliorent, puisqu'en fait, ça pourrait mettre les gens un petit peu en veille à se dire, bon, les choses, effectivement, s'améliorent, on peut se coucher sur les deux oreilles. Non, mais actuellement, je peux dire qu'à Paris, nous recevons une moyenne de 90 femmes par mois.
90 femmes par mois.
Oui, 90 femmes par mois en moyenne, c'est trop, et bon, un seul viol, c'est déjà trop, puisque si vous vous considérez, vous, être violé, ou si c'était votre mère ou fille, c'est inadmissible, donc les choses ne se sont pas du tout améliorées, puisqu'en fait, notre objectif est que l'on ne parle plus de viol. On me dira, c'est l'utopie, mais c'est possible, donc... Les chiffres baissent peut-être, mais les choses ne s'améliorent pas selon notre perception.
Céline Bardet, ce sont des femmes qui sont détruites physiquement, psychologiquement, mais aussi socialement. Peut-on parler de triple peine ?
Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et justement, moi, je dis souvent que c'est une arme à effet à déflagration multiple. D'abord, il faut rappeler aussi que souvent, ces viols sont publics, hein, ou devant la famille, devant le mari, devant... Voilà. Donc, il y a une raison à ça. Et effectivement, elles sont... c'est la victime qui est détruite, c'est la communauté qui est détruite, et c'est la société qui est détruite. Et c'est en ça que c'est une arme extrêmement efficace. Et puis, comme le disait très bien Denis Mukwege au début où on entendait, c'est que... Il n'y a pas, souvent on entend dire que les victimes ne parlent pas. En fait, les victimes, elles parlent. Si on s'intéresse à elles, bien sûr qu'elles racontent ce qu'elles ont vécu. Le problème, c'est l'autre côté, c'est la société. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Donc là encore, il y a une peine additionnelle, parce qu'elles ne peuvent pas dire, parce qu'elles sont rejetées par leur famille la plupart du temps, et elles sont rejetées par la société. Et la société, c'est nous. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, on ne veut pas entendre ça. Et c'est là où c'est important aujourd'hui qu'on avance aussi d'un point de vue de plaidoyer public. Et en cela, le prix Nobel de la paix, je pense, nous aide énormément.
Louboula, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe après la chirurgie ? Qu'est-ce que vous faites pour les ramener sur le chemin de la guérison afin de les réintégrer dans la société ?
Bon, en fait, après la chirurgie, bon, il faut une certaine étape de soins psychologiques, bon, puisque une personne qui a tout perdu, qui a vu ses enfants, son époux être massacré, coupé en petits morceaux devant elle, on doit vraiment la soigner psychologiquement. Mais après ça, nous les emmenons à une troisième étape qui consiste à les former dans différents domaines, c'est-à-dire certaines font de la couture, certaines font tout simplement de l'alphabétisation, c'est-à-dire apprendre à écrire et à lire, ou d'autres petites activités. Et à la fin, celles qui le désirent, nous les conduisons, nous les accompagnons dans le domaine juridique, c'est-à-dire à porter plainte si elles le désirent. Et bon, là, vous verrez par exemple l'exemple de Kavumu, où nous avons accompagné, bon, malheureusement, les bébés, nous les avons accompagnés jusqu'à gagner un procès tout récemment contre un violeur vraiment massif. Voilà les points que nous faisons.
Mais on parle beaucoup de ces femmes, mais il y a aussi des enfants qui naissent de ces viols, Nathalie. qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants?
Alors justement, ils sont stigmatisés comme les femmes violées. Je voudrais parler du cas libyen pour l'illustrer. En fait, après la révolution, les femmes violées étaient persécutées. Hein. Ça se terminait très souvent par des suicides, voire des assassinats quand on découvrait que la femme avait été violée. Et en 2013, il y a eu un décret qui reconnaissait le statut de victime de guerre aux femmes violées en Libye. Et donc, ce décret accordait une pension, des facilités d'accès aux soins, aux études en Libye ou à l'étranger, aux emplois du service public et de prêts, ainsi qu'une aide juridique pour la poursuite des agresseurs. Et donc, ce décret permettait de protéger ces enfants et de faciliter leur adoption. Donc, ce qui s'est passé, c'est comme l'ont dit un petit peu vos autres invités, c'est qu'il y a le problème de stigmatisation qui se reporte sur l'enfant également. Et donc, voilà, je ne pense pas que la plupart des pays soient vraiment conscients de cela. Je sais que d'une manière générale, ce sont les ONG qui se chargent de faire accepter l'enfant à travers, par la société dans laquelle il évolue. Quoi.
Merci beaucoup Nathalie. Je sais aussi que la fondation Panzi aussi reprend ses enfants, mais on revient juste après une courte pause. Pour la seconde partie de Washington Forum, Raissa Giraudin toujours avec vous et nos trois invités sont toujours là pour nous accompagner. En direct de Paris, Céline Bardet, juriste, auteure, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapon of War. En direct de Bukavu en RDC, Louboula, Igo Mokelo, l'assistante du docteur Mukwege à l'hôpital de Panzi. Et sur notre plateau, Nathalie Barge, présentatrice de l'émission Le Monde au Féminin sur la VOA Afrique. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Tierno Oumar Diallo de Guinée, il a prouvé au monde entier qu'on peut rester loin des grandes villes et des hautes fonctions et servir dignement son peuple. Ange Matondo de la RDC, il y a des gens honnêtes qui défendent honorablement leurs connaissances comme ce docteur. Félicitations et courage. Et Ariel Claude Cambilo de la RDC, il a reçu son prix Nobel, mais à Kinshasa, il y a un silence de mort de la part des autorités congolaises. Ce prix, c'est juste une étape pour Denis Mukwege, le nouveau prix Nobel de la paix appelé la communauté internationale à ouvrir les yeux et à agir. Il aimerait que justice soit rendue à toutes les femmes meurtries du monde. Voici le deuxième extrait de son interview accordé à Roger Muntu de la VOA Afrique.
Mon souhait, c'est que justice soit faite. Je crois qu'on ne peut pas concevoir que les gens puissent abuser des autres, détruire les autres, commettre des massacres, commettre des viols à large échelle et qu'ils puissent en sortir sans conséquence. Et quelle que soit la personne qui commet un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, un crime de génocide, ça ne devrait pas passer inaperçu, impuni. Est-ce que si on accepte ces principes, ça veut dire qu'on accepte que les forts puissent détruire les faibles, et ça serait plutôt un monde animal. Comment je peux être content quand je viens d'un des pays les plus riches de la planète, où la population vit dans la pauvreté abjecte, une violence qui n'a pas de fin? Il n'y a pas une semaine, 12 personnes encore ont été massacrées. Toute cette année, on a connu des viols massifs. Moi, je crois que ce prix Nobel aura son sens si vraiment ces prix nous permettent à pouvoir changer la situation des femmes dans notre pays.
Louboula, vous avez entendu ce second extrait de l'interview. On a parlé avant la pause des enfants issus des viols, mais Qu'en est-il des bourreaux? Les bourreaux, dans certains cas, ont eux-mêmes été victimes, enfants soldats ou abusés physiquement. Comment peut-on arrêter ce cycle?
Bon, en fait, ce cycle, c'est vrai que... impossible. C'est-à-dire que ces gens sont des traumatisés. Bon, des bourreaux réels, tout simplement, qui ont le mal dans leur tête. Mais certains sont traumatisés en nés dans ces guerres, étant enfants, etc. Et je crois que si on leur trouvait une activité alternative qui leur montrerait qu'on peut générer des revenus autrement, qu'on peut faire autre chose que cela, parce qu'en fait, il faut parler du chômage, il faut parler du fait qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de ressources, je veux dire, de sources de revenus. Et ces gens n'ont connu que le viol comme activité, n'ont connu que le massacre comme activité.
Donc vous pensez qu'il faut rediriger en fait leurs activités ou même via l'éducation ou l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent en fait s'écarter en fait de ce type d'activité. Merci beaucoup pour votre retour. Céline Bardet, comment la communauté internationale pourrait aider pour mettre plus en avant ce problème et protéger les violences et les personnes fuyant les violences sexuelles?
Alors d'abord je voulais juste faire une enfin j'étais contente d'entendre qu'on mentionne la loi libyenne parce que j'ai travaillé sur cette loi avec le ministre de la Justice Salah Margani. C'est une loi pionnière hein, sur la reconnaissance des victimes de viol pour le Moyen-Orient et pour la Libye, pays que je connais très bien, donc je tenais à le dire et j'étais ravie d'entendre ça. Ensuite, non, au niveau de la communauté internationale, en fait la question c'est la justice. Et ce que dit très bien Denis Mukwege, effectivement, c'est que tant qu'on aura une impunité, et on a une impunité extrêmement forte à l'égard des violences sexuelles et du viol de guerre, parce que toutes les lois sont là, c'est un élément de crime international, de crime contre l'humanité, de génocide. Alors, il y a eu des décisions déjà, des tribunaux pénaux internationaux, il ne faut pas non plus dire à l'inverse qu'il n'y a rien, il y a des choses, mais la communauté internationale, d'abord, il y a une question politique aussi, parce qu'on comprend très bien ici, et de ce que disait Louboula, c'est que, par exemple, si on prend la RDC, c'est un conflit qui dure depuis 20 ans où très peu a été fait, où la communauté internationale reste quand même extrêmement silencieuse. Et donc c'est ça aussi le problème, c'est que le viol de guerre, il est lié aussi au conflit, il est lié aux enjeux économiques, etc. Mais pour revenir juste sur la question de l'impunité, il faut tout un travail aussi de documentation judiciaire. We are not weapons of war, on travaille beaucoup sur la justice, on travaille en coopération totale avec la Fondation Mukwege, et c'est là-dessus qu'il faut avancer, parce que moins on aura d'impunité, plus il y aura une espèce de pression sur cette question. Et ça, c'est essentiel. Et toutes les victimes demandent la justice. Et Denis Mukwege n'a parlé que de ça. Nadia Mourad aussi. Il faut absolument qu'on avance. Donc il faut des moyens aussi. Il faut que la communauté internationale donne les moyens aux organisations qui travaillent sur ces questions, donne les moyens financiers, matériels, de ressources, pour qu'on puisse avancer.
Merci, Nathalie Barge.
Oui,
pour rebondir, et puis de quelle autre manière ces femmes peuvent être soutenues?
Eh bien, en fait, tous les mécanismes sont là. En effet, la justice pénale internationale existe. Elle est assez, on va dire, elle est assez jeune. Hein, elle n'a pas 20 ans. Donc, c'est une base qui n'est pas complète et qui n'est pas aussi parfaite. Hein, d'autant plus que les juristes à cet endroit-là se chamaillent aussi beaucoup sur tous ces, pas ces nouveaux cas, mais en tout cas ces cas d'école. À savoir, par exemple, un exemple, on se demande dans un cas particulier en RDC, à combien faut-il estimer les dommages et intérêts, la réparation pour une personne chère que l'on a perdue. Donc toutes ces mesures sont à mettre en place. Comme l'a dit votre invité juriste, il y a les tribunaux ad hoc, hein, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda. Il était question donc de viol en tant que crime de guerre. On a eu la Sierra Leone, on a la Centrafrique qui se met en place, hein, un tribunal spécial, donc à suivre, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a des tribunaux populaires, en fait tout existe, mais ce qu'il faudrait, je pense,
c'est au niveau national les choses existent.
Alors au niveau national, oui, en République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'on pense, il y a effectivement eu plusieurs procès, oui. et cela cela continue. Mais ce que je voulais dire au niveau international, avant de revenir sur le niveau national, c'est qu'il faudrait inscrire les crimes sexuels dans les charges, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est assez rare. Par exemple, dans le cas de Thomas Lubanga en 2012, il avait commis des crimes sexuels avaient été commis, mais ce n'avait pas été inscrit dans les charges. Donc il y a eu, on va dire d'une certaine manière, jugement, mais sans que le crime sexuel soit mentionné. Or, ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit mentionné le plus possible. On a eu le cas Jean-Pierre Bemba qui a été annulé après, mais c'était le premier en la matière. C'était vraiment un cas d'école. C'était le premier où l'on avait une accusation, une condamnation basée uniquement et essentiellement sur les violences sexuelles. Et en RDC, on a justement au Sud Kivu actuellement des affaires en cours. C'est les cours militaires.
Sur le niveau national, ce que vous me dites, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont en place, il y a des procès qui sont en cours.
Bien sûr.
Céline Barget, et sur le plan international, qu'est-ce qui est envisageable maintenant?
Mais en fait, ce qui est envisageable, j'allais dire, c'est ce qui est déjà en cours. Vous parlez, Nathalie, du tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans ce cadre-là, avec l'affaire Akayuzu, le viol a été reconnu comme élément de génocide. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut effectivement continuer. Donc encore une fois, le prix Nobel de la paix, moi je trouve qu'il s'inscrit dans quelque chose de très fort, parce qu'il dit quoi? Il dit que le viol comme arme de guerre, c'est un problème de sécurité et de paix. Donc il pose déjà cette question-là à ce niveau. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut aussi continuer à travailler, à faire du plaidoyer pour qu'effectivement les charges de viol ou de violence sexuelle soient incluses dans les actes d'accusation. Mais pour ça, le problème je ne suis pas une grande défenseuse de la Cour pénale internationale ou de tous ces tribunaux internationaux qui, selon moi, coûtent très cher, sont très gros et fonctionnent très mal. Néanmoins, à leur crédit, il faut aussi, pour qu'on ait des condamnation, il faut des preuves et il faut un dossier qui soit fort en termes juridiques. Et ça, c'est quelque chose. Et souvent, on a tendance à confondre ça, parce que écouter un témoignage, savoir qu'il y a des choses qui sont passées, c'est une chose. Écouter un témoignage, c'est une chose. En faire un dossier judiciaire qui soit recevable devant une cour, et qui plus est, encore plus devant un tribunal pénal international, ad hoc ou pas, ou la cour pénale, peu importe, ça, c'est quand même très complexe.
Alors, je voudrais conclure avec nous
là-dessus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais avoir un dernier mot de Lugula, s'il est toujours avec nous. Le docteur Mukwege assure qu'il n'est pas politicien, c'est un membre de la société civile. Donc, dans quelle mesure son prix lui permettra de mettre plus en lumière l'ampleur des violences sexuelles?
Je crois que c'est déjà fait. Bon, nous avons juste un problème au niveau national, c'est que, bon, vous l'aurez constaté, hein, le jour de la formation du prix Nobel, de la remise du prix, bon, c'était un match de football qu'on passait sur la télévision nationale. Donc au niveau national, il est étouffé, on essaie d'éviter à ce qu'il soit entendu. Mais je crois que c'est là que nous avons besoin de la communauté internationale pour que justement ce poids soit fait, afin qu'il soit obligé de mettre fin à la violence sexuelle, même au Congo, ce qu'il appelle souvent, lui, le docteur Mukwege, une ingérence humanitaire. Souvent, on dit non, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'un État. Mais le président du gouvernement avait dit on est obligé de s'ingérer lorsqu'on se rend compte que le voisin est en train d'estimer de tuer ses enfants. Donc, je pense que ce prix, il a un impact international qu'on doit juste essayer d'imposer, de nous contraindre à accepter, quoi.
Merci. C'est déjà la fin du débat. Merci à tous nos invités et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet voafrique.com et bien sûr sur notre page Facebook. C'était Raissa Girondin avec vous. Excellente suite de programme.